Chapitre 16. Permettez-moi, dit Aurélie, de vous faire à mon tour une question. J'ai revu le rôle d'Ophélie. Il me plaît, et je me flatte de pouvoir le jouer sous certaines réserves. Mais dites-moi, le poète n'aurait-il pas dû mettre dans la bouche de l'insensé d'autres chansonnettes? Ne pourrait-on choisir des fragments de ballades mélancoliques? Que signifient des équivoques et d'indécentes niaiseries sur les lèvres de cette noble jeune fille ?»« Excellent ami, répondit Wilhelm, je ne puis non plus céder ici même un iota. Dans ces bizarreries, dans cette indécence apparente, est aussi renfermé un grand sens. Nous savons, dès le commencement de la pièce, de quoi est occupé le cœur de cet aimable enfant. Elle vivait silencieuse et recueillie, mais elle dissimulait à peine sa langueur, ses désirs. Les accents de la volupté résonnaient en secret dans son âme. Et que de fois, comme une berceuse imprudente, a-t-elle essayé peut-être d'assoupir sa flamme par des chansonnettes qui ne devaient que l'éveiller davantage. Enfin, lorsqu'elle perd tout empire sur elle-même, que son âme voltige sur ses lèvres, ses lèvres la trahissent, et dans l'innocence de la folie, elle se plaît à redire, en présence du roi et de la reine, ces folâtres chansons de la jeune fille qui se laisse séduire, de la jeune fille qui se glisse auprès de son bien-aimé, et ainsi du reste. Wilhelm avait à peine achevé quand il vit se passer soudain devant ses yeux une scène singulière qu'il ne put nullement s'expliquer. Serlo s'était promené quelquefois de long en large dans la chambre, sans laisser paraître aucune intention particulière. Tout à coup, il s'approcha de la toilette, saisit vivement un objet qui s'y trouvait et courut à la porte avec son butin. Aurélie se fut à peine aperçue de son action qu'elle courut lui barrer le passage, l'assaillit avec une ardeur incroyable et fut assez adroite pour saisir l'objet par un bout. Ils engagèrent une lutte opiniâtre, se tournaient et se retournaient vivement. Il riait, elle se fâchait. Et quand Wilhelm accourut pour les séparer et les apaiser, il vit tout à coup Aurélie, un poignard nu dans la main, s'élancer de côté, tandis que Serlo jetait avec dépit sur le parquet le fourreau qui lui était resté. Wilhelm recula d'étonnement, et sa surprise muette semblait demander la raison d'une lutte si étrange entre le frère et la sœur, pour un meuble si singulier. « Soyez juge entre nous, lui dit Serlo. Qu'a-t-elle à faire de cette lame tranchante? Qu'elle vous la montre? Ce poignard n'est pas fait pour une comédienne. Pointu comme une aiguille, tranchant comme un rasoir. À quoi bon cette plaisanterie? Violente comme elle est, elle se blessera par accident. J'ai une antipathie profonde pour ces singularités. Cela est-il sérieux? C'est de la folie. N'est-ce qu'un dangereux jouet? C'est une absurdité. » « Je l'ai reconquis !» s'écria Aurélie en brandissant la lame brillante. « Je garderai mieux désormais mon fidèle ami. »« Pardonne, » dit-elle en baisant l'acier, « pardonne ma négligence. » Serlo paraissait sérieusement fâché. « Prends-le comme tu voudras, mon frère, » poursuivit-elle. « Peux-tu savoir si ce n'est pas un précieux talisman qui me fut donné sous cette forme ?» Si, dans un moment funeste, je ne trouverais pas en lui conseil et secours. Faut-il donc croire nuisible tout ce qui semble dangereux? Des discours si dépourvus de sens me rendraient furieux, dit Serlo, en sortant de la chambre avec une sourde colère. Aurélie remit soigneusement le poignard dans le fourreau et le garda sur elle. Poursuivons, dit-elle, l'entretien que mon malheureux frère a troublé. Par ces mots, elle coupa court aux questions que Wilhelm essayait de lui faire sur ce singulier débat. « J'admets, reprit-elle, votre explication du caractère d'Ophélie. Je ne veux pas méconnaître l'intention du poète, mais je plains cette jeune fille plus que je n'entre dans ses sentiments. Maintenant, permettez-moi une réflexion que vous m'avez déjà souvent suggérée en peu de temps. J'admire chez vous le coup d'œil juste et profond avec lequel vous jugez la poésie, et surtout la poésie dramatique. Les plus secrets mystères de l'invention ne vous sont pas cachés, et vous saisissez les traits les plus délicats de l'exécution. Sans avoir jamais vu les objets dans la nature, vous reconnaissez la vérité dans l'image. On dirait que vous portez en vous un pressentiment du monde entier, et qu'il s'éveille et se développe au contact de l'harmonie poétique. Car, en vérité, poursuivit-elle, vous ne recevez rien du dehors. Je n'ai vu, je crois, personne qui connaisse aussi peu, qui méconnaisse aussi complètement les gens avec lesquels il vit. Permettez-moi de le dire. Quand on vous entend expliquer votre Shakespeare, on croit que vous arrivez du conseil des dieux et que vous avez entendu comment on s'accorde là-haut pour former les hommes. Mais, quand vous êtes en commerce avec le monde, je vois en vous cet homme enfant, premier-né de la création, qui contemple, avec une singulière admiration et une bonté d'âme édifiante, les lions et les singes, les moutons et les éléphants, et qui leur adresse naïvement la parole comme à ses égaux, parce qu'ils vivent et se meuvent comme lui. « Excellent ami, répondit Wilhelm, le sentiment secret de ma nature écolière m'est souvent à charge, et je vous serai très obligé si vous voulez bien m'aider à me faire du monde des idées plus claires. Dès mon enfance, les yeux de mon esprit ont plus regardé au-dedans qu'au dehors, et il est très naturel que j'ai appris, jusqu'à un certain point, à connaître l'homme sans concevoir et comprendre le moins du monde les hommes. Assurément, dit Aurélie. J'ai soupçonné d'abord que vous vouliez vous moquer de nous, quand vous nous disiez tant de bien des gens que vous avez envoyés à mon frère, et que je comparais vos lettres avec les mérites des personnes. » L'observation d'Aurélie, si vraie qu'elle pût être, et si volontiers que son amie s'avouât ce défaut, avait quelque chose de pénible et même de blessant, en sorte que Wilhelm garda le silence et se recueillit, soit pour ne laisser apercevoir aucune susceptibilité, soit pour se consulter lui-même sur la justesse de ce reproche. « Ne soyez pas confus, poursuivit-elle. Nous pouvons toujours parvenir à la lumière de la raison, mais nul ne peut nous donner les trésors du sentiment. Si vous devez être un artiste, vous ne pourrez conserver trop longtemps cette illusion et cette innocence. C'est la belle enveloppe du jeune bouton. Malheur à nous si nous sommes trop vite épanouis. Certes, il n'est pas toujours bon de connaître ceux pour qui nous travaillons. Je fus aussi une fois dans cet heureux état, à l'époque où je parus sur la scène, avec la plus haute idée de moi-même et de mes compatriotes. Que n'étaient pas les Allemands dans ma pensée? Que ne pouvaient-ils pas être? Je parlais à ce peuple au-dessus duquel m'élevait un petit échafaudage. J'en étais séparé par une rangée de lampes dont l'éclat et la fumée m'empêchaient de distinguer nettement les objets devant moi. Qu'il m'était doux le bruit des applaudissements partis du sein de la foule, que je recevais avec reconnaissance le don qui m'était fait par tant de mains animées du même sentiment. Longtemps je me berçais de la sorte. L'influence que j'exerçais sur la foule, elle l'exerçait sur moi à son tour. J'étais avec mon public dans la meilleure intelligence. Je croyais sentir une parfaite harmonie et voir toujours devant moi la meilleure et la plus noble partie de la nation. Malheureusement, ce n'était pas seulement la comédienne dont le naturel et le talent intéressaient les amis du théâtre. Ils eurent aussi la prétention de plaire à la vive jeune fille. Ils me firent entendre assez clairement que mon devoir était de partager moi-même avec eux les sentiments que je leur avais inspirés. Mais ce n'était pas là mon dessein. Je désirais élever leurs âmes, et pour ce qu'ils appelaient leur cœur, je n'y avais pas la moindre prétention. Alors, toutes les conditions, tous les âges et les caractères, l'un après l'autre, m'importunèrent, et rien ne me fut plus pénible que de ne pouvoir, comme toute honnête jeune fille, m'enfermer dans ma chambre et m'épargner ainsi bien des ennuis. Les hommes se montraient la plupart tels que je les avais vus chez ma tante, et comme autrefois, ils ne m'auraient encore inspiré que de l'aversion. si leur singularité et leur sottise ne m'avaient amusé. Comme je ne pouvais éviter de les voir au théâtre, ou dans les lieux publics, ou chez moi, je me proposais de les observer tous, et mon frère me secondait à merveille. Et si vous songez que, depuis le sensible commis de magasin et le présomptueux fils de marchand, jusqu'à l'homme du monde habile et circonspect, au soldat audacieux et au prince entreprenant, tous ont successivement défilé devant moi, et que chacun a voulu nouer son roman à sa manière. Vous m'excuserez si je me flatte de connaître assez bien mes compatriotes. L'étudiant, à la mise fantastique, le savant avec son embarras et son humble orgueil, le frugal chanoine à la marche vacillante, l'homme d'affaires attentif et guindé, le robuste baron campagnard, le courtisan avec ses grâces et sa plate politesse, le jeune ecclésiastique égaré, le marchand qui va son train paisible comme celui qui galope et spécule ardemment, je les ai tous vus se donner du mouvement. Et, par le ciel, il s'en trouvait bien peu qui fussent capables de m'inspirer même un intérêt vulgaire. Loin de là, il m'était infiniment désagréable d'enregistrer en détail, avec fatigue et avec ennui, les suffrages des sots qui m'avaient tant charmé en masse et que je m'étais approprié en gros si volontiers. Quand j'attendais sur mon jeu un compliment raisonnable, quand j'espérais qu'ils allaient faire l'éloge d'un auteur que j'honorais, ils ne faisaient que sottes remarques les unes sur les autres et citaient quelques pièces insipides dans laquelle ils désiraient me voir jouer. Quand je prêtais l'oreille dans la société avec l'espérance d'entendre peut-être un noble trait, un mot spirituel et placé à propos, rarement j'en découvrais quelques traces. Une faute échappée au comédien qui avait dit un mot pour un autre ou fait entendre un provincialisme, voilà les points importants auxquels il s'arrêtait, d'où il ne pouvait sortir. Je finissais par ne savoir plus de quel côté me tourner. Il se croyait trop habile pour se laisser amuser, et il croyait m'amuser moi-même merveilleusement par leur cajolerie. J'en vins à les mépriser tous de bon cœur. Et il me semblait que toute la nation eût voulu, de propos délibérés, se prostituer à mes yeux par ses représentants. Je la trouvais en tout si gauche, si mal élevée, si mal instruite, si dénuée de qualités aimables, si dépourvue de goût. Je m'écriais souvent « Un Allemand ne saurait-il donc attacher les cordons d'un soulier s'il n'a reçu les leçons d'une nation étrangère ?» Vous voyez comme j'étais aveuglée, injuste, morose, et cette disposition maladive ne faisait que s'accroître de jour en jour. Elle m'aurait poussée au suicide, mais je tombais dans une autre extrémité. Je me mariais, ou plutôt, je me laissais marier. Mon frère, qui avait pris la direction du théâtre, désirait fort un associé. Son choix tomba sur un jeune homme qui ne me déplaisait point, qui n'avait, il est vrai, aucune des qualités de mon frère, le génie, l'esprit, la vie et l'ardeur, mais qui possédait en échange tout ce qui manquait à Serlot, l'amour de l'ordre, l'application, un talent précieux pour les affaires d'administration et de finances. Il devint mon mari, sans que je sache comment. Nous avons vécu ensemble, sans que je sache pourquoi. Mais nos affaires prospérèrent, nous fîmes de bonnes recettes, et nous le devions à l'activité de mon frère. Nous vécûmes dans l'aisance, et c'était grâce à mon mari. Je ne songeais plus au monde et à la nation. Je n'avais rien à démêler avec le monde, et j'avais perdu le sentiment national. Si je paraissais sur la scène, c'était pour vivre. Je parlais parce qu'il ne m'était pas permis de me taire, parce que je m'étais produite pour parler. Au reste, pour ne pas faire un tableau trop noir, je m'étais entièrement dévouée aux vues de mon frère. Il lui fallait des applaudissements et de l'argent, car entre nous, il aime à s'entendre louer, et il dépense beaucoup. Je ne jouais plus d'après mon sentiment et mes convictions, mais selon ses avis, et quand j'avais pu le satisfaire, j'étais contente. Il s'accommodait à toutes les faiblesses du public. Les recettes étaient bonnes, il pouvait vivre à son gré, et nous étions ensemble dans une heureuse situation. Cependant, j'étais tombée dans une indifférence routinière. Je passais mes jours sans plaisir et sans joie. Je n'avais point d'enfant, et mon union fut de peu de durée. Mon mari tomba malade, ses forces diminuaient visiblement. Les soins que je pris de lui me tirèrent de mon indifférence. Dans ce temps-là, je formais une liaison avec laquelle commença pour moi une nouvelle vie, nouvelle et moins durable encore, car elle n'est pas loin de finir. Aurélie se tut quelques moments, puis elle reprit. « Mon caprice bavard fait une pause soudaine, et je n'ai pas le courage de poursuivre. Laissez-moi prendre un moment de repos. Vous ne sortirez pas d'ici sans connaître tout le détail de mes malheurs. » Appelez Mignon et sachez ce qu'elle désire. » Pendant le récit d'Aurélie, Mignon avait paru quelquefois dans la chambre, et comme à son entrée on parlait plus bas, elle s'était doucement retirée dans la pièce voisine où elle attendait sans bruit. Quand on l'appela, elle parut tenant un livre qu'à la forme et à la reliure on pouvait prendre pour un petit atlas de géographie. Pendant son séjour au presbytère, elle avait vu, pour la première fois, avec une grande admiration, des cartes géographiques. Elle avait fait là-dessus beaucoup de questions au pasteur et appris tout ce qu'elle avait pu. Ses nouvelles connaissances paraissaient avoir rendu plus vif que jamais son désir de s'instruire. Elle pria instamment Wilhelm de lui acheter ce livre. Elle avait laissé en gage au libraire ses grandes boucles d'argent et désirait, la soirée étant déjà fort avancée, les retirer le lendemain matin. Wilhelm lui accorda ce qu'elle demandait. Alors elle se mit à débiter ce qu'elle savait. Puis elle fit, à sa manière, les plus bizarres questions. On put observer de nouveau que, malgré sa grande application, elle ne comprenait qu'avec effort et difficulté. Il en était de même pour l'écriture, dont elle s'occupait avec beaucoup de zèle. Son langage était toujours très défectueux, mais lorsqu'elle se mettait à chanter, lorsqu'elle faisait vibrer les cordes de sa guitare, elle semblait se servir du seul organe qu'elle posséda pour épancher et communiquer ses sentiments. Puisque nous en sommes venus à parler d'elle, nous devons aussi faire mention de l'embarras, où, depuis quelque temps, elle mettait notre amie. Lorsqu'elle arrivait ou s'en allait, qu'elle lui souhaitait le bonjour ou le bonsoir, elle le serrait si fort dans ses bras, et son baiser était si plein de flamme, que l'ardeur de ce naturel, qui commençait à se développer, le rendait souvent inquiet et soucieux. La vivacité convulsive de ses manières semblait augmenter de jour en jour, et tout son être était la proie d'une agitation secrète. Elle ne pouvait durer sans tortiller dans ses doigts un bout de fil, manier un mouchoir, mâcher du papier ou des morceaux de bois. Chacun de ces jeux semblait n'être qu'un moyen de détourner une émotion violente. La seule chose qui parut lui rendre quelque sérénité était l'approche du petit Félix, avec qui elle savait déployer beaucoup de gentillesse. Aurélie, qui, après un moment de repos, était disposée à s'expliquer enfin avec son amie sur un sujet qui lui tenait si fort au cœur, fut impatientée cette fois par la persistance de la petite, et lui fit entendre qu'elle devait se retirer. Et, cela ne suffisant pas encore, il fallut lui ordonner de sortir, ce qu'elle fit de mauvaise grâce. « C'est maintenant ou jamais, dit Aurélie, que je dois vous raconter le reste de mes malheurs. Si quelques lieux seulement nous séparaient de l'ami tendrement aimé qui ne m'a pas rendu justice, je dirais « Montez à cheval, trouvez quelque moyen de faire connaissance avec lui, et quand vous reviendrez, vous m'aurez pardonné sans doute, et vous me plaindrez sincèrement. Maintenant, mes paroles peuvent seules vous apprendre combien il était aimable et combien je l'aimais. Je fis sa connaissance dans le temps pénible où j'avais de craintes sérieuses pour la vie de mon mari. Il revenait d'Amérique, où il s'était fort distingué, avec quelques Français, sous les drapeaux des États-Unis. Il vint à moi avec un tranquille maintien, une cordiale bienveillance. Il me parla de moi, de ma position, de mon talent, comme un ancien ami, avec tant de sympathie et de clarté que j'éprouvais, pour la première fois, la jouissance de voir tout mon être se réfléchir nettement dans un autre que moi. Ses jugements étaient exacts, sans être tranchants, justes, sans être rigoureux. Il ne montrait aucune dureté, et son badinage était aimable. Il semblait accoutumé à réussir auprès des femmes, et je me tins sur mes gardes. Mais il ne se montrait ni flatteur, ni pressant, et cela me rendit ma sécurité. Il voyait peu de monde à la ville, montait beaucoup à cheval, visitait les nombreuses connaissances qu'il avait à la campagne et soignait les affaires de sa maison. À son retour, il descendait chez moi, entourait de soins affectueux mon mari, toujours plus malade. Il soulagea ses souffrances par le secours d'un habile médecin. Et, comme il s'intéressait à toutes mes affaires, il sut m'intéresser aussi à sa destinée. Il me parlait de ses campagnes, de son irrésistible penchant pour la vie militaire, de sa famille. Il me faisait part de ses occupations présentes. Enfin, il n'avait rien de caché pour moi. Il me développait ses plus intimes pensées, laissait mon regard pénétrer dans les plus secrets replis de son cœur. J'appris à connaître ses talents, ses passions. C'était la première fois de ma vie que je jouissais de la société d'un homme aimable et sincère. Je fus attirée, entraînée, avant d'avoir pu me reconnaître. Sur ces entrefaites, je perdis mon mari, à peu près comme je l'avais épousé. Le fardeau des affaires du théâtre retomba sur moi. Mon frère, parfait sur la scène, n'était bon à rien dans l'administration. Je veillais à tout, et cependant j'étudiais mes rôles avec plus d'ardeur que jamais. Je jouais de nouveau comme autrefois, ou plutôt avec une toute autre force et une vie nouvelle. C'était par lui et pour lui. Cependant mon jeu laissait souvent à désirer, quand je savais mon noble ami dans la salle. Mais quelquefois il m'écoutait à la dérobée, et vous pouvez juger combien son suffrage inattendu me surprenait agréablement. Certes, je suis une étrange créature. Dans chacun de mes rôles, il me semblait toujours que je faisais son éloge et célébrais sa gloire. C'était la disposition de mon cœur, quel que fût le sens des paroles. Si je le savais parmi les spectateurs, je n'osais parler avec toute mon énergie, comme si je n'avais pas voulu lui jeter au visage mon amour et mes louanges. S'il était absent, j'avais libre carrière, je faisais merveille, avec une tranquille assurance, avec une satisfaction inexprimable. Je retrouvais du charme aux applaudissements, et quand le public prenait plaisir à m'entendre, j'aurais voulu m'écrier « C'est à lui que vous le devez !» Oui, comme par l'effet d'un prodige, mes rapports avec le public, avec toute la nation, étaient changés. Tout à coup, elle s'offrait de nouveau à mes regards sous le jour le plus favorable, et je m'étonnais de mon premier aveuglement. « Que tu étais déraisonnable !» me disais-je souvent, « de blâmer un peuple justement de ce qu'il est un peuple. Est-il nécessaire, est-il possible que les individus soient intéressants ? Nullement. Il s'agit de savoir si, dans la grande masse, ne sont pas réparties une foule de dispositions, de forces et de facultés qui puissent être développées par des circonstances favorables et conduites à une fin commune par des hommes éminents. J'étais charmée dès lors de trouver parmi mes compatriotes si peu d'originalité saillante. J'étais charmée de les voir accepter sans répugnance une direction étrangère. J'étais charmée d'avoir trouvé un guide. Lothair. Laissez-moi désigner mon ami par ce prénom chéri. Lothair m'avait toujours parlé de la vaillance allemande et m'avait fait voir qu'il n'est pas au monde une nation plus brave lorsqu'elle est bien conduite, et je rougissais de n'avoir jamais songé à la première qualité d'un peuple. Il connaissait l'histoire et il était en relation avec la plupart des hommes distingués de son temps. Dès la fleur de son âge, il suivait des yeux la jeunesse allemande, cette génération nouvelle qui donnait tant d'espérance. Il suivait les silencieux travaux auxquels se livraient, dans tous les genres, des hommes assidus et laborieux. Il me faisait passer l'Allemagne en revue, me montrer ce qu'elle est, ce qu'elle peut être, et je me reprochais d'avoir jugé une nation d'après cette tourbe confuse qui se presse dans les coulisses d'un théâtre. Il me faisait un devoir de me montrer aussi, dans ma profession, vraie, animée et vivifiante. Je me croyais inspirée, chaque fois que je paraissais sur la scène. Des choses de peu de valeur devenaient de l'or dans ma bouche, et si un poète m'avait dignement soutenue, j'aurais produit des effets prodigieux. Ainsi vécut pendant quelques mois la jeune veuve. Il ne pouvait se passer de moi, et j'étais fort malheureuse en son absence. Il me communiquait les lettres de ses parents, de son excellente sœur. Il prenait intérêt à mes moindres affaires. On ne peut imaginer d'union plus intime, plus parfaite. Le mot d'amour n'était pas prononcé. Lothaire partait et revenait, il revenait et partait. Et maintenant, mon ami, il est temps que vous partiez aussi. Chapitre 17. Wilhelm ne pouvait différer plus longtemps sa visite au correspondant de sa maison. Il ne la fit pas sans embarras, car il savait qu'il trouverait chez eux des lettres de sa famille. Il appréhendait les reproches qu'elle devait renfermer. Vraisemblablement, on avait aussi informé la maison de commerce de l'inquiétude où l'on était au sujet du voyageur. Après tant d'aventures chevaleresques, il craignait de paraître comme un écolier, et il résolut de payer d'audace pour cacher son embarras. Mais, à sa grande surprise, à sa grande satisfaction, tout se passa fort bien et fort doucement. Dans le comptoir vaste, animé, affairé, on eut à peine le temps de chercher ses lettres. On ne fit mention qu'en passant de son long retard. Et lorsqu'il eut ouvert les lettres de son père et de son ami, il les trouva, en somme, fort modérées. Le vieillard, espérant que Wilhelm lui enverrait un journal détaillé, qu'à son départ il lui avait soigneusement recommandé de rédiger, et dont il lui avait même tracé le plan, paraissait assez tranquillisé sur le silence des premiers temps, et se plaignait seulement du style énigmatique de la première et unique lettre qu'il avait écrite du château du comte. Werner se contentait de plaisanter à sa façon. Il racontait les joyeuses anecdotes de la ville et demandait des nouvelles d'amis et de connaissances que Wilhelm verrait en nombre dans la grande ville de commerce. Notre ami, enchanté d'en être quitte à si bon marché, répondit aussitôt par quelques lettres fort gaies et promettait à son père un journal détaillé avec toutes les observations géographiques, statistiques et commerciales qu'on lui demandait. Il avait vu beaucoup de choses en voyage et il espérait pouvoir en composer un cahier d'une grosseur raisonnable. Il ne songeait pas qu'il se trouvait à peu près dans la même situation que lorsqu'il avait allumé les chandelles et convié les spectateurs pour jouer devant eux une pièce qui, bien loin d'être apprise, n'était pas même composée. Aussi, lorsqu'il voulut se mettre à l'œuvre, il s'aperçut avec chagrin qu'il pouvait exposer et décrire ses sentiments, ses idées, maintes expériences du cœur et de l'esprit, mais non les objets extérieurs, auxquels, comme il put l'observer alors, il n'avait pas accordé la moindre attention. Dans cet embarras, la science de son ami Laerte lui fut d'un grand secours. L'habitude avait lié ces deux jeunes hommes, malgré la différence de leur caractère. Et avec tous ses défauts, avec ses singularités, Laerte était, on peut le dire, un homme intéressant. D'une heureuse et saine complexion, il aurait pu vieillir sans y songer, sans réfléchir jamais sur sa position. Mais son malheur et sa maladie lui avaient ravi la sérénité de la jeunesse et lui avaient fait entrevoir l'instabilité et la fragilité de notre nature. De là, une façon capricieuse et décousue de juger les choses, ou plutôt d'en exprimer les impressions immédiates. Il n'aimait pas la solitude. Il fréquentait les cafés, les tables d'hôtes, et s'il restait chez lui, les voyages étaient sa plus chère, ou plutôt son unique lecture. Il avait maintenant de quoi satisfaire son goût, ayant trouvé un loueur de livres richement pourvu. Et bientôt, la moitié du monde apparut dans son excellente mémoire. Il lui fut donc facile de rassurer son ami lorsqu'il vint lui découvrir son dénuement absolu de matériaux pour la relation si solennellement promise. « Nous allons faire, lui dit-il, un tour de force qui n'aura pas son pareil. Est-ce que l'Allemagne n'a pas été parcourue, traversée, sillonnée, explorée et visitée d'un bout à l'autre ? Et chaque voyageur allemand n'a-t-il pas le magnifique avantage de se faire rembourser par le public ses grandes ou petites dépenses ? Donne-moi seulement ton itinéraire jusqu'au jour où tu nous as joints. Le reste, je le sais. Je te fournirai les secours et les sources où tu puiseras. Nous ne manquerons pas de noter les lieux carrés, qu'on ne mesura jamais, et les populations, qui ne furent jamais dénombrées. Nous trouverons les revenus des États dans les almanachs et les tableaux statistiques, qui sont, comme chacun sait, les documents les plus sûrs. Nous établirons là-dessus nos raisonnements politiques. Nous ne manquerons pas de faire quelques digressions sur les gouvernements. Nous représenterons une couple de princes comme les pères de leurs sujets, afin que l'on nous croie d'autant mieux si nous disons du mal de quelques autres. Et si nous ne traversons pas les lieux même habités par quelques hommes célèbres, nous les rencontrons dans une auberge où nous mettons sur leur compte cent extravagances qu'ils veulent bien nous confier. Surtout, nous ne manquons pas d'entremêler à tout cela, de la manière la plus agréable, une histoire d'amour avec quelque naïve jeune fille. C'est de quoi faire un ouvrage qui non seulement enchantera ton père et ta mère, mais que tous les libraires t'achèteront volontiers. » On se mit à l'œuvre, et ce travail amusa beaucoup les deux amis. Cependant, Wilhelm trouvait, le soir, les plus vives jouissances au spectacle et dans la société de Serlo et d'Aurélie, et ses idées, trop longtemps renfermées dans un cercle étroit, s'étendaient davantage de jour en jour. Chapitre 18. Il entendit avec le plus grand intérêt ce que Serlo lui raconta peu à peu de ses aventures. Car ce n'était pas la manière de cet homme singulier de s'épancher et de parler de suite sur quelque sujet que ce fût. Il était né, pour ainsi dire, sur le théâtre, et en avait sucé avec le lait toute la pratique. Comme petit enfant, encore sans langage, il avait ému les spectateurs par sa seule présence, car les auteurs connaissaient déjà ses moyens innocents et naturels. Et ses premiers, pères, mère, lui valurent dans quelques pièces aimées du public les plus grands succès, avant qu'il sût ce que c'était qu'applaudissement. Plus d'une fois, il descendit tout tremblant, en amour, dans la machine à voler. Il sortit de l'œuf en arlequin, et il joua bientôt les plus jolis tours comme petit ramoneur. Mais, hélas, il payait bien cher pendant le jour les applaudissements qu'il obtenait dans ses brillantes soirées. Son père, estimant que les coups pouvaient seuls éveiller et soutenir l'attention des enfants, le fouettait à intervalles réglés, chaque fois qu'il devait étudier un nouveau rôle. Non que l'enfant fût maladroit, mais afin qu'il montrât son adresse d'une manière plus certaine et plus soutenue. C'est ainsi qu'autrefois, quand on plantait une borne, on donnait aux enfants qui se trouvaient là de vigoureux soufflets, si bien que les plus vieilles gens se souviennent encore parfaitement de la place. Il grandit, et son esprit fit paraître des facultés, son corps des aptitudes extraordinaires. Ajoutez une grande souplesse, soit dans sa manière de concevoir, soit dans l'action et le geste. Son talent d'imitation passait toute croyance. Jeune enfant, il imitait déjà les grandes personnes, si bien que l'on croyait les voir, quoiqu'elles n'eussent aucun rapport avec lui ni entre elles, pour la taille, l'âge et les manières. D'ailleurs, il ne manquait pas du talent de se produire, et aussitôt qu'il eut, dans une certaine mesure, conscience de ses forces, il trouva tout naturel de fuir son père, qui, voyant grandir l'intelligence de son fils et croître ses talents, jugeait nécessaire de les seconder encore par un traitement rigoureux. Qu'il se sentit heureux, le malin garçon, dans le vaste monde où ses espiègleries lui assuraient partout un favorable accueil. Sa bonne étoile le conduisit d'abord, à l'époque du carnaval, dans un couvent, où il arriva comme un ange secourable, parce que la mort venait d'enlever le révérend père qu'on avait chargé de conduire les processions et de divertir les fidèles par de pieuses mascarades. Serlot se chargea en outre de jouer dans l'Annonciation le rôle de Gabriel, et il ne déplut pas à la jolie jeune fille qui, en sa qualité de Vierge Marie, reçut très gentiment son gracieux salut, avec une humilité apparente et un orgueil secret. Il joua successivement, dans les mystères, les rôles les plus importants, et ne fut pas médiocrement satisfait de lui-même, lorsque, enfin, comme sauveur du monde, il fut raillé, fouetté et mis en croix. Dans cette occasion, quelques soldats avaient joué leur rôle trop au naturel. Pour se venger d'eux de la manière la plus convenable, il les équipa, pour le jugement dernier, de magnifiques vêtements d'empereurs et de rois. Et, au moment où, fort satisfaits de leur rôle, ils s'avançaient, pour prendre aussi dans le ciel le pas sur tous les autres, il se jeta sur eux à l'improviste, sous la figure du diable. Et, à la grande édification des mendiants, ainsi que des autres spectateurs, il les reçut à coups de fourche, les repoussa et les précipita impitoyablement dans la fosse, où ils se virent fort mal accueillis par un feu jaillissant. Il était assez habile pour comprendre que les têtes couronnées ne trouveraient pas de leur goût son audacieuse entreprise, et n'auraient aucun respect pour son emploi d'accusateur et d'archer. Il s'éclipsa donc sans bruit avant le commencement du règne de l'éternité, et fut reçu à bras ouverts dans une ville voisine par une confrérie qu'on appelait alors les enfants de la joie. C'étaient de bons vivants, gens d'esprit et de bon sens, qui voyaient bien que la somme de notre existence, divisée par la raison, ne peut jamais parfaitement se réduire, mais qu'il reste toujours une fraction singulière. Cette fraction, géante, dangereuse même, lorsqu'elle se répartit dans toute la masse, ils tâchaient de s'en débarrasser à des époques fixes. Ils étaient parfaitement fous un jour par semaine, et ce jour-là, ils châtiaient mutuellement, par des scènes allégoriques, les folies qu'ils avaient remarquées chez eux et chez les autres, pendant les autres jours. Si cette manière était plus rude qu'une suite de leçons dans lesquelles les hommes polis ont coutume de s'observer, de s'avertir et de se reprendre chaque jour, elle était aussi plus gaie et plus sûre. Car, en même temps que l'on ne désavouait point une manie favorite, on la traitait pour ce qu'elle était réellement. Tandis que, par l'autre voie, avec le secours de l'illusion personnelle, elle finit souvent par être maîtresse au logis, et réduite à un secret esclavage la raison, qui s'imagine l'avoir dès longtemps mise à la porte. La marotte faisait le tour de la confrérie, et il était permis à chacun de la décorer, à son jour, d'une manière caractéristique, d'attributs personnels ou étrangers. Dans le temps du carnaval, on prenait les plus grandes libertés, et l'on rivalisait d'efforts avec le clergé, pour amuser et attirer le peuple. Les processions solennelles et allégoriques de vertus et de vices, de sciences et d'arts, de saisons et de parties du monde, personnifiaient pour le peuple une foule d'idées et lui donnaient des notions d'objets éloignés, et par là, ces amusements n'étaient pas sans utilité, tandis que les momeries du clergé ne faisaient que fortifier toujours davantage une absurde superstition. Le jeune Serlot se retrouvait là dans son élément. Il n'avait pas le génie créateur, mais beaucoup d'adresse pour utiliser, disposer et faire valoir ce qu'il trouvait à sa portée. Ses saillies, son talent d'imitation, son esprit mordant, auquel il osait donner libre carrière, du moins une fois par semaine, même contre ses bienfaiteurs, le rendaient précieux et même indispensable à toute la société. Mais son inquiétude lui fit bientôt abandonner cette position avantageuse pour visiter d'autres provinces de sa patrie, où il eut à faire de nouvelles expériences. Il visita cette partie civilisée, mais prosaïque, de l'Allemagne, où le culte du beau et du bon ne manque pas sans doute de vérité, mais souvent de génie. Là, il ne pouvait plus réussir avec ses masques. Il dut essayer d'agir sur l'esprit et le cœur. Il ne passa que peu de temps dans les grandes et les petites troupes et saisit l'occasion d'observer les particularités de tout le répertoire et de tous les acteurs. La monotonie qui régnait alors sur la scène allemande, le rythme et la chute insipide de l'alexandrin, le dialogue plat et ampoulé, la sécheresse et la vulgarité des sermons de morale toutes crues, il eut bientôt tout saisi et en même temps observé ce qui savait plaire et toucher. Ce n'était pas seulement un rôle des pièces en vogue, c'étaient les pièces entières qui se fixaient aisément dans sa mémoire, avec le ton particulier de l'acteur qui les avait jouées avec succès. L'argent étant venu à lui manquer tout à fait dans ses courses vagabondes, il eut l'idée de représenter, à lui seul, dans les châteaux et les villages, des pièces entières et de se procurer ainsi, en tout lieu, le gîte et la table. Une salle de cabaret, une chambre, un jardin, voyait en un clin d'œil son théâtre s'élever. Avec une feinte gravité, un air d'enthousiasme, il savait captiver l'imagination de ses auditeurs, abuser leur sens et, à leurs yeux ouverts, transformer une vieille armoire en un château fort, un éventail en poignard. La chaleur de la jeunesse suppléait chez lui au défaut de sentiments profonds. Sa fougue semblait de la force et ses câlineries de la tendresse. À ceux qui connaissaient déjà le théâtre, il rappelait tout ce qu'ils avaient vu et entendu, et il éveillait chez les autres le pressentiment de quelque chose de merveilleux, avec le désir de le mieux connaître. Ce qui avait produit de l'effet dans un lieu, il ne manquait pas de le répéter dans un autre, et le fripon était enchanté lorsqu'il avait pu, de même sorte, se jouer de tout le monde à l'impromptu. Avec son esprit vif, libre et indépendant, il fit des progrès rapides, à répéter fréquemment les rôles et les pièces. Il récita et joua bientôt avec plus de justesse que les modèles qu'il s'était borné d'abord à imiter. Par là, il en vint peu à peu à jouer naturellement, quoiqu'il se déguisât toujours. Il paraissait entraîné, et il cherchait l'effet, et rien ne le rendait plus fier que d'émouvoir les hommes par degrés. La folle industrie qu'il exerçait eut encore l'heureux effet de le forcer bientôt à garder une certaine mesure, et, en partie par nécessité, en partie par instinct, il apprit ce que si peu de comédiens semblent soupçonner, c'est qu'il faut ménager le geste et la voix. Il sut donc apprivoiser même des hommes grossiers et farouches, et les intéresser à lui. Comme il se contentait partout de la nourriture et du gîte, qu'il recevait avec reconnaissance le moindre présent, et parfois même refusait l'argent, lorsqu'il croyait en avoir assez, ses hôtes lui donnaient tour à tour des lettres de recommandation pour leurs amis, et il se promena longtemps ainsi de château en château, où il éveillait et goûtait maint plaisir, non sans trouver les plus agréables et les plus jolies aventures. Avec sa froideur naturelle, il n'aimait proprement personne. Avec son coup d'œil clairvoyant, il ne pouvait estimer personne, car il ne voyait jamais que les qualités extérieures des hommes, et il les recueillait dans son répertoire mimique. Mais avec cela, sa vanité était extrêmement offensée s'il ne plaisait pas à chacun et s'il n'excitait partout les applaudissements. Il avait fait peu à peu une étude attentive des moyens de les obtenir, et il avait acquis là-dessus une pénétration si vive que non seulement sur la scène, mais encore dans la vie ordinaire, il ne savait plus que flatter. Et son caractère, son talent, sa manière de vivre, agirent de telle sorte l'un sur l'autre qu'il en devint insensiblement un acteur accompli. Même, par une action et une réaction singulières en apparence, mais tout à fait naturelles, sa récitation, sa déclamation et son geste s'élevèrent, par la réflexion et la pratique, au plus haut degré de vérité, de liberté et de franchise, tandis qu'il parut devenir toujours plus réservé, plus artificiel et même dissimulé et contraint dans la vie ordinaire et les relations de société. Nous parlerons peut-être ailleurs de sa destinée et de ses aventures, et nous ne ferons plus ici qu'une observation. C'est que, plus tard, lorsqu'il fut devenu un homme fait, avec une réputation établie, une situation fort belle, quoique peu solide, il avait pris dans la conversation l'habitude de faire le sophiste, avec une finesse ironique et railleuse, et rendait ainsi presque impossible tout entretien sérieux. Il employait surtout cette méthode avec Wilhelm, chaque fois que notre ami prenait fantaisie, comme cela lui arrivait souvent, de discuter sur quelque théorie générale. Malgré cela, ils aimaient beaucoup à se rencontrer, car la diversité de leur manière de voir donnait à la conversation beaucoup de vie. Wilhelm voulait tout déduire des idées qu'il avait conçues, il voulait réduire l'art en système. Il voulait établir des règles expresses, déterminer ce qui était correct, beau et bon, et ce qui méritait l'approbation. Bref, il traitait les questions sérieusement. Serlot, au contraire, prenait les choses d'une façon fort légère, et, sans répondre jamais directement, il savait faire accueillir, à l'aide d'une histoire ou d'une facétie, la plus piquante et la plus agréable explication, et instruire la société en même temps qu'il l'amusait. Chapitre 19. Tandis que Wilhelm passait de la sorte des heures agréables, Mélina et les autres étaient dans la plus triste position. Ils apparaissaient quelquefois à notre ami comme de mauvais esprits et lui faisaient passer de fâcheux moments, non seulement par leur présence, mais souvent aussi par leurs regards farouches et leurs propos amers. Serlot ne les avait pas admis à jouer, même en qualité d'artiste voyageur, bien loin de leur faire espérer un engagement. Et néanmoins, il avait appris à connaître peu à peu les talents de chacun. Aussi souvent que les acteurs se réunissaient chez lui familièrement, il avait coutume de les faire lire, et même quelquefois de lire avec eux. Il prenait les pièces qui devaient être jouées plus tard, celles qui ne l'avaient pas été depuis longtemps, et d'ordinaire, il les prenait par fragments. Il faisait aussi répéter, après la première représentation, les passages sur lesquels il avait quelques observations à faire. Par là, il éclairait les comédiens, il les rendait plus sûrs de toucher le véritable point. Et, comme un esprit médiocre, mais juste, peut faire plus de plaisir aux spectateurs qu'un génie embrouillé et sans culture, il élevait, par les vues claires qu'il leur communiquait insensiblement, les talents ordinaires à une remarquable supériorité. Ce qui ne laissait pas de contribuer au succès, c'est qu'il leur faisait lire aussi des poésies et entretenait chez eux le sentiment du charme qu'un rythme bien rendu éveille dans notre âme, tandis que sur d'autres théâtres, on commençait dès lors à ne plus débiter qu'une prose pour laquelle suffisaient les plus faibles interprètes. Dans ces réunions, Serlot avait aussi appris à connaître les nouveaux venus. Il avait jugé ce qu'ils étaient et ce qu'ils pouvaient devenir, et il avait secrètement résolu d'en tirer parti dans la révolution qu'il craignait de voir éclater parmi ses comédiens. Il laissa quelque temps l'affaire en suspens. Il éludait toutes les intercessions de Wilhelm en haussant les épaules. Enfin, il saisit son moment pour faire tout à coup à son jeune ami la proposition de monter lui-même sur le théâtre. À cette condition, il engagerait aussi les autres.
Ces gens ne sont donc pas aussi ineptes que vous me les avez représentés jusqu'à ce jour, repartit Wilhelm. Si vous pouvez aujourd'hui les recevoir tous en masse, et je pense que, sans moi, leurs talents seraient toujours les mêmes.
Là-dessus, Serlo lui fit, sous le sceau du secret, confidence de sa position. Son premier amoureux faisait mine de lui demander une augmentation d'appointements en renouvelant leur traité. Il n'avait pas l'intention de céder, d'autant que cet acteur n'était plus fort goûté du public. S'il le laissait aller, tout son parti le suivrait, ce qui ferait perdre à sa troupe quelques bons sujets, mais aussi quelques médiocres. Puis il fit connaître à Wilhelm ce qu'il espérait de lui. De Laerte, du vieux bourru, et même de Madame Mélina. Il promettait d'employer jusqu'au pauvre pédant et de le faire briller dans les rôles de juif, de ministre, et en général de scélérat. Wilhelm fut surpris. Il n'entendit pas ses ouvertures sans émotion, et pour dire quelque chose, il reprit avec un profond soupir « Vous vous bornez à parler, d'une manière très obligeante, du bien que vous trouvez en nous et que vous en espérez. Mais que pensez-vous des côtés faibles, qui sans doute n'ont pas échappé à votre pénétration ?»«
Avec l'étude, l'exercice et la méditation, nous en ferons bientôt des côtés forts, » répliqua Serlo.
« Il n'en est aucun parmi vous, bien que vous ne soyez encore que des apprentis, des enfants de la nature. » Qui ne donne plus ou moins d'espérance. Car, autant que j'ai pu juger tous ces gens-là, il n'en est aucun qui soit une véritable bûche. Et les bûches seules ne peuvent se former, qu'elles soient indociles et inflexibles par vanité, par sottise ou par hypocondrie. Ensuite, Serlo exposa, en peu de mots, les conditions qu'il pouvait et voulait faire. Il pria Wilhelm de se décider promptement, et le laissa dans une grande inquiétude. En travaillant à cette singulière relation de voyage supposé qu'il n'avait entreprise qu'en se jouant et qu'il composait avec Laerte, il était devenu plus attentif qu'il ne l'avait jamais été aux conditions sociales et aux trains journaliers de la vie pratique. Il comprit alors pourquoi son père lui avait si vivement recommandé la rédaction de ce journal. Il sentait, pour la première fois, combien ce pourrait être une chose utile et agréable de se faire le centre de tant d'industries et de besoins, et d'aider à répandre la vie et l'activité jusqu'au fond des bois et des montagnes. Cette ville de commerce, si vivante, au milieu de laquelle il se trouvait, et que Laerte, avec son inquiétude habituelle, lui faisait parcourir en tous sens, lui offrait l'idée la plus saisissante d'un grand centre, duquel tout s'écoule et où tout revient. Et c'était la première fois que son esprit goûtait une véritable jouissance à contempler ce genre d'activité. C'est dans ces circonstances que Serlo lui avait fait sa proposition et avait réveillé ses vœux, sa passion, sa confiance en ce qu'il croyait être chez lui un talent naturel, et ses obligations envers les comédiens sans ressources. Me voilà de nouveau, se disait-il à lui-même, devant le chemin fourchu, entre les deux femmes qui m'ont apparu dans mon enfance. L'une ne paraît plus aussi misérable, ni l'autre aussi magnifique qu'autrefois. Tu te sens une certaine vocation à suivre l'une comme l'autre, et des deux parts, les considérations extérieures sont puissantes. Il te semble impossible de prendre une résolution. Tu désires que quelque impulsion étrangère puisse fixer ton choix. Et pourtant, si tu t'observes bien, ce sont uniquement des circonstances extérieures qui t'inspirent une certaine inclination pour le négoce, le gain et la richesse. Mais ce sont les besoins de ton âme qui produisent et nourrissent ton désir de développer et de cultiver toujours davantage les dispositions, corporelles ou intellectuelles, pour le bon et le beau qui peuvent sommeiller en toi. Et ne dois-je pas respecter l'arrêt du destin
qui, sans mon concours, me conduit ici au terme de tous mes vœux. Tout ce que j'ai rêvé et projeté autrefois n'arrive-t-il pas aujourd'hui par hasard, sans que je m'y sois employé? Chose étrange, l'homme semble ne rien connaître mieux que les espérances et les vœux qu'il a longtemps nourris et portés dans son cœur. Et pourtant, quand il s'offre à ses vues, quand il s'impose à lui, en quelque sorte, il ne les reconnaît plus et recule devant eux. Tout ce qui n'était plus pour moi qu'un rêve, depuis la nuit fatale qui me sépara de Marianne, est devant mes yeux et s'offre à moi spontanément. Je voulais fuir dans cette ville et je m'y vois doucement amenée. Je voulais chercher un engagement auprès de Serlot, c'est lui qui me recherche, et il m'offre des conditions que je ne pouvais attendre comme débutant. Était-ce donc seulement l'amour de Marianne qui m'enchaînait au théâtre, ou bien était-ce mon amour pour l'art dramatique qui m'attachait à cette jeune fille? Cette perspective, ce refuge cherché dans le théâtre, était-ce uniquement la ressource d'un homme inquiet et déréglé qui désirait continuer un genre de vie que ne lui permettaient pas les mœurs de la société bourgeoise, ou bien était-ce tout autre chose, un objet plus noble et plus pur? Et qu'est-ce qui pourrait te faire changer de sentiment? N'as-tu pas au contraire poursuivi ton plan jusqu'à ce jour, même à ton insu? Ta dernière démarche n'est-elle pas d'autant plus digne d'approbation que nuls mobiles accessoires ne sont ici en jeu et que tu peux tout à la fois acquitter une parole solennellement donnée et te libérer noblement d'une dette pesante? Tous les mouvements de son cœur et de son imagination se combattaient de la manière la plus vive. L'idée de pouvoir garder Mignon, de n'avoir pas à congédier le joueur de harpe, jetait un assez grand poids dans la balance. Et cependant, elle flottait encore au moment où il se rendit chez Aurélie, à l'heure accoutumée. Chapitre 20. Il la trouva couchée sur son lit de repos. Elle paraissait tranquille. « Croyez-vous pouvoir jouer demain ?» lui dit-il. « Sans doute, » reprit-elle vivement. « Vous le savez, rien ne m'en empêche. Ah, que ne puis-je trouver un moyen d'échapper aux applaudissements de notre parterre ? Ils me veulent du bien et ils me feront mourir. Avant-hier, j'avais le cœur brisé. Autrefois, je pouvais souffrir ces hommages quand je me plaisais à moi-même. Lorsque j'avais longtemps étudié et préparé mon rôle, j'aimais à entendre éclater dans la salle entière le signe heureux de mon succès. Maintenant, je ne dis pas ce que je veux, ni comme je veux. Je suis entraînée, je m'égare, et mon jeu fait une impression beaucoup plus grande. Les applaudissements sont beaucoup plus bruyants, et je dis en moi-même « Si vous saviez ce qui vous charme, ces accents étouffés, violents, incertains, vous émeuvent, vous arrachent des cris d'admiration, et vous ne sentez pas que ce sont les cris de douleur de l'infortunée à laquelle vous avez accordé votre bienveillance. » Ce matin, j'ai appris mon rôle, je viens de répéter, de m'essayer. Je suis lasse, brisée, et demain il faudra recommencer. Demain soir, il faudra jouer. C'est ainsi que je me traîne d'une fatigue à une autre. Le matin, je me lève avec ennui, le soir, je me couche avec chagrin. Je tourne dans un cercle éternel. Puis viennent les fâcheuses consolations. Puis je les rejette et les maudis. Je ne veux pas me soumettre à la nécessité. Pourquoi ce qui me tue serait-il nécessaire? Les choses ne pourraient-elles aller autrement? Je suis allemande et il faut que je l'expie. C'est le caractère des Allemands de peser sur tout et de sentir tout peser sur eux. Oh, mon ami, s'écria Wilhelm. Ne cesserez-vous pas d'aiguiser vous-même le poignard dont vous vous frappez sans relâche? Ne vous reste-t-il rien? Votre jeunesse, votre beauté, vos forces, vos talents, n'est-ce rien? Si vous avez perdu, sans votre faute, un bien précieux, devez-vous donc rejeter tout le reste? Est-ce là encore une nécessité? Aurélie garda un moment de silence, puis elle dit avec exaltation. Je sais bien que c'est un temps perdu. L'amour n'est pas autre chose. Que n'aurais-je pu, que n'aurais-je dû faire? Et maintenant, tout n'est plus rien. Je suis une pauvre créature. J'aime, j'aime. Ayez pitié de moi, mon Dieu, je suis une pauvre créature. » Elle pencha la tête sur son sein, et après un instant de silence, elle s'écria « Vous autres, hommes, vous êtes accoutumés à voir les femmes se jeter à votre cou. Non, vous ne pouvez le sentir. Aucun homme ne peut sentir ce que vaut une femme qui sait se respecter. Par tous les anges du ciel, par toutes les félicités dont un cœur pur et bon se forme l'image, il n'est rien de plus divin qu'une femme qui se donne à l'homme qu'elle aime. Nous sommes froides, fières, hautaines, clairvoyantes, habiles, quand nous méritons le nom de femme. Et tous ces avantages, nous les mettons à vos pieds aussitôt que nous aimons, aussitôt que nous espérons amour pour amour. Oh, comme j'ai sacrifié, le sachant et le voulant, toute mon existence. Mais aussi je veux maintenant m'abandonner au désespoir. Oui, me plonger, de propos délibérés, dans le désespoir. Je ne veux pas qu'il y ait en moi une goutte de sang qui ne soit punie, pas une fibre que je n'ai tourmentée. Souriez, moquez-vous, je le veux bien, de cet appareil théâtral de la passion. » Wilhelm ne se sentait nullement disposé à rire. L'affreux état, moitié naturel, moitié forcé, de son amie, ne l'affligeait que trop vivement. Il sentait avec elle les tortures d'une exaltation malheureuse. Ses idées se confondaient, et une ardeur fiévreuse agitait son sang. Aurélie s'était levée et se promenait dans la chambre. « Je me répète, s'écria-t-elle, toutes les raisons que j'avais de ne pas l'aimer. Je sais aussi qu'il n'en est pas digne. Je détourne mes affections tantôt sur un objet, tantôt sur un autre. Je m'occupe comme je puis. Quelquefois j'apprends un rôle, quand même je n'ai pas à le jouer. Les anciens que je connais à fond, je les étudie dans le détail, avec une application nouvelle, et les médite encore et encore. Mon ami, mon confident, quel horrible travail de s'arracher à soi-même. Ma raison s'altère, ma tête s'égare. Pour me sauver de la folie, je reviens à ce sentiment. Que je l'aime. Oui, je l'aime, je l'aime. S'écria-t-elle, baignée de larmes. « Je l'aime, et c'est ainsi que je veux mourir. » Wilhelm lui prit la main et la conjura avec les dernières instances de ne pas se déchirer elle-même. « Étrange destinée de l'homme, disait-il, que non seulement l'impossible, mais le possible même lui soit souvent refusé. Vous n'étiez pas destiné à rencontrer un cœur fidèle qui vous aurait donné une félicité parfaite. Et moi, je devais attacher tout le bonheur de ma vie à une infortunée que j'ai accablée, brisée peut-être comme un roseau avec le fardeau de ma fidélité. » Wilhelm m'avait fait confidence à Aurélie de sa liaison avec Marianne et pouvait donc y faire allusion. Elle le regarda fixement et lui dit « Pouvez-vous affirmer que vous n'avez jamais trompé aucune femme, que jamais vous n'avez cherché à surprendre ses faveurs par de frivoles hommages, des déclarations téméraires, des serments séducteurs ?»« Je le puis, répartit Wilhelm, et je n'en fais pas gloire, car ma vie était fort simple, et je fus tenté rarement de devenir tentateur. Et quel avertissement pour moi, ma belle et noble amie, que le triste état dans lequel je vous vois plongée. Recevez un vœu que m'inspire mon cœur, qui se formule en paroles expresses par l'émotion que vous m'avez inspirée, et qui est sanctifiée par ce moment. Je jure de résister à toute inclination passagère, et même d'ensevelir les plus sérieuses dans mon sein. Aucune femme n'entendra jamais l'aveu de mon amour, que celle à qui je pourrais consacrer ma vie. » Aurélie regarda Wilhelm avec une farouche indifférence, et comme il lui tendait la main, elle recula de quelques pas. « Ce n'est pas la peine, » dit-elle, « quelques pleurs de femmes de plus ou de moins. La mère n'en sera ni plus ni moins grande. Cependant, poursuivit-elle, sur tant de milliers, une de sauvée, c'est quelque chose. Sur tant de milliers, trouver un homme sincère, cela n'est pas à dédaigner. Savez-vous aussi ce que vous promettez ?
Je le sais, répondit Wilhelm en souriant, et il tendit la main.
J'accepte, dit Aurélie. Elle fit un mouvement de la main droite qui fit croire à Wilhelm qu'elle voulait prendre la sienne. Mais elle porta vivement la main à sa poche. Elle en tira le poignard, et avec la vitesse de l'éclair, et lui en promena rapidement la pointe et le tranchant sur la main. Il la retira soudain, mais déjà le sang coulait.
« Il faut vous marquer rudement, vous autres hommes, pour que le souvenir vous en reste !»
s'écria-t-elle avec une gaieté sauvage qui fit bientôt place au plus vif empressement. Elle prit son mouchoir et enveloppa la main de Wilhelm pour arrêter le sang.
« Pardonnez à une femme presque insensée, lui dit-elle, et ne regrettez pas ces gouttes de sang. Je suis apaisée, je reviens à moi. Je veux vous demander pardon à genoux. Laissez-moi la consolation de vous guérir. »
Elle courut à son armoire, y prit du linge et quelques objets, arrêta le sang et visita soigneusement la blessure. L'incision partait de la base du pouce, traversait la ligne de vie et s'étendait jusqu'au petit doigt. Aurélie le pensait en silence. Elle était plongée dans une sérieuse rêverie. Wilhelm lui dit plusieurs fois « Ma chère, comment avez-vous pu blesser votre ami ?»«
Silence !» lui répondit-elle en se posant un doigt sur la bouche. « Silence !»